de 15h à 18h à l'hôtel communal. Je vous encourage à y être. Bon, le jeûne a commencé hier depuis 18h et on ferme 24h. Donc, bon, ceux qui n'ont pas jeûné, ce n'est pas grave. Dieu peut exaucer même vos prières, même si vous avez mangé. Et même si vous partez à la maison, je vous encourage vraiment à être là. C'est un sujet principal pour moi parce que on peut avoir des besoins particuliers de maison, d'église, de travail, d'enfantement. Mais si le pays dans lequel on vit n'a pas la paix, tout ce que vous avez comme sujet personnel ne peut même plus être exaucé. Enfin, je veux dire, ne peut pas se réaliser puisque le pays dans lequel vous vivez n'est pas en paix. C'est ce que Dieu a dit à Jérémie, que ta paix dépend de la paix de la vie dans laquelle tu te trouves. Il est bien que nous puissions prier pour que Dieu glorifie son nom, qu'il accomplisse son plan parfait sur la nation. Amen. Donc, je vous encourage ce soir à être là à partir de 15h. On ne m'a pas dit de faire l'annonce, mais comme c'est une annonce qui est importante pour moi, quand j'ai eu l'information sur Internet, je me suis chargé à le faire. Donc, je vous encourage vraiment à être là ce soir à 15h pour que Dieu se glorifie. Amen. Deuxième information importante, je vais demander afin de demander aux femmes, si je précise que la prochaine veille des prières est veille des prières personnalisée. C'est le vendredi 16 mars, ici à Ramos-Sion. À la différence des autres veillées qui consistent à prier globalement pour les personnes, on prie ensemble, chacun prie pour lui. On le fait aussi, mais à pas de 2, 3 heures du matin, on arrête. Et puis on prie pour les personnes, on prie pour vous de manière spéciale. Un à un. Et c'est pourquoi je ne fais pas d'annonce, je le fais vraiment. Et ceux qui ont participé à ça la dernière fois ont trouvé ça très bien. Donc la prochaine veillée a lieu le vendredi 16 mars. La dernière fois, il y avait quatre groupes de prières, donc quatre pasteurs, enfin quatre hommes de quatre groupes de prières. Je pense que pour le prochain, on sera peut-être cinq ou six, pour qu'il y ait suffisamment de personnes. En fait, on prend le temps pour chaque cas et qu'on puisse prier pour cela. Et si Dieu donne une pensée, une parole, on donne la parole. S'il n'y a rien aussi, on n'invente pas les prophéties, on n'invente pas les révélations. Il ne faut surtout pas inventer. Quand Dieu n'a pas parlé, il faut se taire. S'il a parlé, on parle. Donc voilà un peu de quoi il s'agira pour le 16 mars. Je reviens encore après le 16 mars. Nous aurons notre veille le 13 avril. Vous savez, il y a les dates que Satan choisit. Moi, je crois que tous les jours sont créés par Dieu. Mais quand on lit la Bible, on se rend compte qu'il y a des situations spéciales que l'ennemi choisit pour opérer. Rappelez-vous, quand le Seigneur a été tenté dans Matthieu chapitre 4, on en parle. Il dit le diable s'est retiré de lui en attendant une occasion favorable. Donc, il y a des occasions qui sont favorables au diable. Et on voit l'occasion favorable a été manifestée où et quand? À Gethsémani. À Gethsémani. L'occasion favorable a été manifestée à Gethsémani au point qu'il ne voulait plus aller à la croix. Il a dit, Père, que ta volonté soit faite. Mais avant cela, il a dit, c'était si votre heure, le pouvoir des ténèbres. En clair, c'est l'heure du pouvoir des ténèbres. Et il semble, et en tout cas, les anciens sorciers mystiques disent que les 13, les vendredis 13, généralement, le monde spirituel démoniaque est en branle. Ils font toutes sortes d'incantations pour pouvoir polluer l'atmosphère. Je ne vous ferai pas de dire que j'ai vu sur la Côte d'Ivoire un épais nuage, mais on dit un nuage, hein, un épais nuage, mais quelque chose d'épais, complètement épais. Et c'est en priant que le nuage commence à se dégager. Donc, il est important pour nous de pouvoir choisir les bonnes occasions. À titre individuel et pour chaque famille, je vous encourage à prier de la nuit du 12 au 13. La nuit du 12 au 13. Puisque le 13 commence quand? À minuit, à mille quelques secondes. Donc, il vaut mieux, c'est que beaucoup de travail, vous avez beaucoup d'activités au travail, mais faites en sorte que pour la nuit du 12 au 13, veillez un peu, enfin veillez un peu, dormez jusqu'à 19h, 20h, 21h, 22h, 23h, vous vous réveillez, vous priez. Et vous proclamez la grâce de Dieu. N'oubliez pas que quand Aman dans Esther voulait tuer et détruire tous les Juifs, qu'est-ce qu'il a fait? Il a consulté les devins. Et les devins lui ont indiqué la date favorable pour commettre leur meurtre. L'année dernière au campus, je suis passé au campus, j'enseignais sur cela. En 2010 ou 11, je ne sais plus. En tout cas, j'enseignais ça au campus. Ici, je ne crois pas. Là-bas, j'enseignais ça. Il a attendu l'occasion favorable. Et les devins lui ont dit, dans 12 mois, à telle période, ou à la période Nissi, attaque-les, il faut les tuer. C'était une période qui était marquée par le diable pour détruire les Juifs. Mais malheureusement pour lui, Dieu a renversé la situation en sa faveur, en leur faveur. Donc ce qu'il faut faire, c'est de renverser tout projet. Comme dit Job chapitre 5, il dit, Il dit, la main du méchant ne puisse pas accomplir ses projets. Pour que toute incantation, je ne dis pas cela pour que vous soyez soupçonneux, vous ayez peur de qui que ce soit, de vos voisins de quartier, vos collègues du bureau, commencez à avoir peur d'eux, dénommez, faites la liste de tous les sorciers de votre bureau et commencez à avoir peur de non, je ne dis pas ça. Je dis simplement que vous prenez autorité en déclarant que tout propos maléfique contre votre vie, votre famille, parce que quelque chose ne peut pas arriver dans le naturel si ça n'a pas été déclaré dans le spirituel. Et si une occasion est marquée par le diable, il faut aller pour la démarquer et dire que tout ce qui a été fait dans le monde, sous la terre, dans les cieux, dans le deuxième ciel, contre ma vie, contre ma famille, contre ma destinée, je le déprogramme au nom de Christ Jésus. Donc, vous prenez déjà la porte de la nuit du 13 avril, en commençant de 12 à partir de 23h, si vous voulez, jusqu'à 1h du matin à peu près. Hein. Fermez cette fenêtre-là, et puis après, vous pouvez vous rendormir et aller au travail tranquillement. Et le 13, donc la nuit, on se retrouve encore pour avoir un temps de prière, ensemble cette fois-ci, pour proclamer la victoire du Seigneur et puis prier pour les différents sujets. Donc voici les dates importantes dont je voudrais parler et pour lesquelles je tiens absolument à vous demander de les noter afin que ça soit vraiment un moment de connexion. Donc le 16 mars, pour autant de prier ici, prier individualisée, et puis le vendredi 13 avril. Maintenant, la dernière chose que je vais dire concerne les femmes. Est-ce que les femmes sont là? Je vous demande aux femmes de se tenir debout, à toutes les femmes, sauf à ceux qui ne sont pas des femmes. Voilà, à toutes les femmes de citer debout. J'ai pour vous une bonne nouvelle. J'ai dit que j'allais vraiment beaucoup compter sur les femmes et compter avec vous. Donc retenez que suite à la prière qu'on a eue, et j'avais déjà pensé à cela, le samedi 21 avril, nous aurons un programme spécial dénommé Jour de gloire pour les femmes. J'ai pensé à tendre une main plus fort. Je pensais attendre un amen plus fort. Samedi 21 avril, nous aurons un jour de gloire pour les femmes. Et c'est un programme qui commence à partir de maintenant parce que je veux préparer un grand mouvement des femmes. Donc, le samedi 21 avril, de 14h à 18h, vous aurez comme orateur principal la femme du pasteur Adetola, maman Adetola. C'est une femme qui est une femme de feu et qui va vous soulever dans la prière, qui va vous aider, qui va montrer l'importance des femmes. Le thème, c'est un thème connu, c'est « Les femmes sont une grande armée ». Les femmes sont une grande armée, c'est tiré de Psaume 68, verset 12. Donc, je vous demande de retenir cela. Ça sera de 14h à 18h. Et puis, à la fin de ce jour spécial pour les femmes, on va prendre un agapé ensemble. On a même proposé de prendre un temps pour manger ensemble. Donc, les femmes, la 7e temps, sont invitées à pouvoir contribuer à cela. J'ai demandé à Mme EKF de s'occuper de la coordination et de faire en sorte que les femmes puissent se mobiliser au plan financier pour organiser ce programme le samedi 21 février. C'est 21 avril. C'est seulement les femmes qui sont présentes. Je serai le seul homme à être là et puis le groupe musical nuit sera là. C'est tout, sinon le reste, ça sera que des femmes. Parce que je veux vraiment parler aux femmes et je veux qu'on parle aux femmes parce que je sais que si les femmes sont debout, si elles sont fortes, l'église sera forte. Pourquoi? Mais parce que sans vous flatter, vous êtes plus fidèles que les hommes. Vous êtes plus honnêtes que les hommes. Vous êtes plus engagés que les hommes. La preuve ici, il y a plus de femmes que d'hommes. Donc si on ne compte pas sur vous, on va compter sur qui? Sur les hommes qui sont toujours en train de se plaindre, en train de chercher quelque chose. Oh, moi, je vais compter sur vous, les femmes. Vous ne dites pas Amen. Gloire à Dieu. Notre Seigneur lui-même, il avait 12 disciples. Mais si vous lisez la Bible, vous voyez qu'autour de lui, il y avait plusieurs femmes qui le soutenaient. Et qui est la première personne qui l'avait ressuscité? C'était une femme. C'est elle qui apporte le message. C'est tout un message que j'ai en train d'apporter. Donc, je vous demande vraiment de ne pas oublier cette date-là. C'est pour vous, les femmes. C'est vous à l'honneur. Et nous sommes en train de préparer la grande conférence des femmes l'année prochaine. Du 7 au 10 mars 2013. Nous sommes en train de préparer la grande conférence des femmes. Du 7 au 10 mars 2013. Ça veut dire que le président de Bénézé aura chaque année une conférence pour les femmes et la civile pour tout le monde. Donc vous êtes tellement particulier que je veux compter sur vous. Que Dieu vous bénisse. Amen. Pour vous asseoir maintenant. Ok. Donc, ces annonces étant faites. Gloire à Dieu. Oh, souvent, nous venons à l'église avec beaucoup de soucis. Mais je veux ce matin que nous croyons que Dieu exauce nos prières. Il exauce nos prières. Même si tu viens avec des soucis, je peux vous dire moi qui vous parle. J'aurais dû ne pas vous le dire, mais je veux le dire parce que c'est vrai, j'ai beaucoup de soucis. Chaque jour, quand je m'élève, je n'ai pas de soucis particuliers, honnêtement. Et je suis l'église. Et depuis une, deux semaines, je ne fais que parcourir les terrains. Quand j'entends parler d'un lot qui existe quelque part, je me déplace. Il y a encore, j'ai dû casser même là où passe l'eau pour la voiture, parce que j'étais avec Georges en train de chercher terrain. Ce matin, je vais déposer ce fardeau au pied du Seigneur. Parce que s'il m'exauce, il nous exauce. Ça, c'est mon souci particulier numéro un. Trouver un terrain à la gloire de Dieu. Et j'espère que l'information qu'on a reçue hier va se confirmer. On paraît être sur une bonne piste. Et moi, en tant que pasteur, je vais déposer au pied du Seigneur mon souci et mon fardeau. Mais toi aussi, tu as un souci, tu as un fardeau. Dépose au pied du Seigneur et dis à Dieu, tu exauces ma prière. Quelle est la prière pour laquelle tu as prié tout à l'heure? Crois que Dieu l'exauce. Tu n'as pas besoin de voir un signe dans le ciel pour croire que Dieu t'exauce. Parce que Dieu est notre Père. Et si un homme ou une femme parle à son Père et que son Père a les moyens, son Père l'exauce au temps convenable. Et je veux que tu saches que Dieu t'exauce parce qu'il écoute tes prières. Et s'il écoute tes prières, il les exauce au temps convenable. Merci Seigneur.
Apprends-moi Seigneur à compter sur toi. Apprends-moi, Seigneur, à compter sur toi.
Oui, apprends à compter sur le Seigneur, apprends à compter sur lui.
Apprends-moi, Seigneur.
Oh Dieu, apprends-moi à compter sur toi.
À compter sur toi.
Oh Dieu, apprends-nous ce matin à compter sur toi.
Apprends-moi, Seigneur.
Oh, apprends-moi, Seigneur, à compter sur toi.
À compter sur toi. Car tu exauces nos prières. Car tu
parlant que tu exauces mes prières ce matin.
Apprends-moi, Seigneur, à compter sur toi. À compter sur toi.
Je veux que tu le confesses. Dis à Dieu, je vais apprendre
apprends-moi,
à compter sur toi.
Seigneur, apprends-moi, Seigneur.
Dis à Dieu que tu lui fais confiance.
À compter.
Il ne va pas te décevoir que tu veux compter sur lui.
Apprends-moi. Seigneur,
apprends-moi, Seigneur.
Apprends-moi, Seigneur,
à compter sur toi.
Apprends-moi, Seigneur.
Apprends-moi, Seigneur.
Je veux compter,
Dieu,
compter
sur toi.
À compter,
compter sur toi.
Debout là où tu es, tu as dit, lève tes mains vers le ciel, disant Dieu, je veux que tu le répètes, dis à Dieu, tu exauces mes prières. Confesse-le, dis à Dieu, tu exauces mes prières. Ouvre ta bouche et dis-le lui, c'est une parole de foi, c'est une proclamation que tu fais. Dis à Dieu, tu exauces ma prière. Tout ce qui me trouble, tout ce qui me traverse l'esprit, tout ce qui me perturbe, je sais que tu exauces mes prières. Dis-le lui, confesse-le lui, tu exauces mes prières. Même si mes yeux ne le voient pas, je confesse ce matin. Que tu exauces mes prières. Confesse-le, tu exauces mes prières.
Car tu exauces.
Car tu exauces.
Car tu exauces.
cite les sujets, dis à Dieu, je sais que tu m'as écouté, je sais que tu m'as exaucé.
Apprends-moi,
oh Dieu, pour le terrain, je sais que tu m'as exaucé.
À compter.
Oh, pour ce terrain, pour la construction de ce temps, je sais que tu m'as exaucé. Je sais que tu m'as exaucé. Parce que tu le mets des temps et des circonstances. Tu as tout préparé. Les moyens financiers sont là. Les moyens matériels sont là. Ne feront pas défaut. Je sais que tu m'as écouté. Merci pour le mariage aussi. Merci pour les ossements.
À compter sur toi.
C'est que l'ange a dit à Zacharie. Mais l'ange lui dit, sois sans crainte, Zacharie, car ta prière a été exaucée. Sois sans crainte, Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme, Elisabeth, enfantera un fils et te l'appellera du nom de Jean. Il a prié pendant des années, cet homme-là. Un homme de Dieu, honnête, fidèle, propre. Il a prié pendant des années. Et il pensait n'avoir jamais reçu d'exaucement. Le jour où il partait offrir le parfum de l'adoration, simplement, Dieu envoie son ange. Le ciel avait été touché. Le ciel avait été touché. Et Dieu a dépêché son ange. Qui a dit à Zacharie, ta prière a été exaucée. Ce matin, je te dis que ta prière a été exaucée. Que ta prière soit exaucée ce matin. Que ta prière soit exaucée ce matin. Au nom de Jésus. Amen. Assois-toi, s'il te plaît.
Ah, tu exauces nos prières. Car tu exauces nos prières. Tu exauces nos prières. Tu me fais voir ta gloire, Seigneur.
Bénissons ton nom ce matin parce que tu exauces ma prière, parce que tu exauces nos prières. Toi qui exauces les prières, tous les hommes viendront à toi parce que tu es le Dieu bon, le Dieu éternel, le Dieu rempli de compassion et de grâce. Merci pour cela ce matin, que la gloire te revienne au nom de Jésus. Amen. Dis à ton voisin, Dieu exauce ta prière. Est-ce qu'on le croit vraiment? Est-ce qu'on le croit vraiment? Vous savez, quand Zacharie priait, il n'y croyait pas. C'était difficile pour lui. La preuve qu'il ne croyait pas, c'est qu'il a douté. Qu'est-ce qui s'est passé après? Sa bouche a été fermée. Il dit, ok, comme tu as voulu contester ce que Dieu dit, il voulait trembler, il voulait... Dieu exauce les prières. Et c'est écrit dans Psaume. Il dit, toi qui exauces les prières, toi qui écoutes les prières, tous les hommes viendront à toi. Le Dieu d'Israël est le Dieu qui exauce les prières qui t'exauce au nom de Jésus-Christ. Amen. Ok, vous pouvez vous asseoir. Groupe musical. Je l'ai fait parce que moi, j'ai besoin de me fortifier à cause du terrain. Chaque nuit, Mais Dieu fidèle, il est bon, il va le faire. On a failli doubler, mais Dieu n'a pas permis qu'on soit doublé. On veille. Ça sera fait par la grâce de Dieu. Alors, ce matin, nous continuons notre enseignement sur le thème qui se trouve dans Deutéronome chapitre 28, verset 13. Tu seras la tête et non la queue. J'ai pris ce thème parce que j'ai voulu communiquer avec les frères, avec les sœurs de l'Église, que notre Dieu est le Dieu qui nous propulse. Parce que c'est vrai, si nous sommes sauvés, nous devons marier tous des hommes et des femmes sur la terre. Mais la Bible n'est pas seulement un livre spirituel qui enseigne les principes divins. La Bible est un livre merveilleux parce qu'il nous enseigne aussi des principes que nous pouvons expérimenter sur la terre afin de concilier une foi chrétienne fervente, vivante et une vie heureuse sur la terre. Le Seigneur déclare que votre joie soit parfaite. Je vous donne une vie et la vie d'abondance. Donc croyez que la vie d'abondance, ce n'est pas seulement une vie au ciel, la félicité, mais sur la terre, nous pouvons expérimenter, n'est-ce pas, la grâce et la faveur de Dieu. Et puis, il est aussi question pour nous de pouvoir expérimenter la parole de Dieu dans toute sa dimension. Et le dimanche dernier, j'ai commencé à aborder le deuxième principe. Après, ça va parler pendant au moins 3-4 dimanches de la vision, parce qu'on ne peut pas être la tête si on n'a pas la vision pour être la tête. J'avais parlé notamment de ce cas de guérison que le Seigneur a opéré avec cet aveugle qui était dans un village. Et le Seigneur l'a mis hors du village, a fait une action prophétique en prenant la boue avec sa salive. Plus tard, il a été guéri. D'abord, il voit les hommes comme des arbres, il voit très flou. Et puis après, il a été totalement guéri dans la vie clairement. Le Seigneur lui a dit de ne pas retourner au village. Alors, j'ai dit, mais pourquoi est-ce que cet homme, Jésus avait-il besoin de faire quitter, de l'amener hors du village afin d'opérer la guérison? On a compris qu'il y avait certainement un lien entre sa société et le village. Et j'ai dit ceci, votre environnement peut vous influencer positivement ou négativement. Et que si vous êtes dans un milieu qui ne favorise pas l'élévation, il vaut mieux le quitter pour aller dans un endroit où vous pouvez voir plus clair. Ensuite, ça c'était vraiment un peu la conclusion que je donnais sur, en ce qui concerne le premier point, le premier principe sur la vision, parce que la vision nous conduit à être la tête ou peut qu'on nous conduit à être la queue. Mais ce matin, nous avons compris que Dieu nous conduit à être la tête. Ensuite, j'ai engagé le deuxième sous-thème, donc, qui est un principe, la loyauté. Et j'ai dit dimanche dernier que la loyauté est extrêmement importante. Et j'ai pris l'exemple de qui? De Josué. Que avant d'être serviteur de l'Éternel, avant que Josué ne soit élevé, avant que Josué ne possède le pays de Canaan, qu'il soit pleinement dans sa destinée, qu'il soit le vaillant guerrier qu'on a connu, le vaillant, le général, n'est-ce pas, qui a conduit des guerres et qui a vaincu les fils d'Anak. Josué a d'abord appris à être serviteur de Moïse. On s'est appuyé sur le passage de Josué chapitre 1 et verset 1. Et dans ce passage, il est écrit ceci. Moïse, serviteur de Dieu, de l'Éternel, est mort. Il dit, Josué, fils de Noun, serviteur de Moïse. On ne peut pas être serviteur de l'Éternel si on n'a pas appris à être serviteur d'un homme. En réalité, ici, dans l'expression de serviteur de Moïse, en fait, c'est une manière de nous enseigner que Josué a appris à être loyal. Et c'est plus tard, à la fin du chapitre du livre de Josué, c'est le chapitre 24, que Dieu nous appelle maintenant que Josué est appelé serviteur de l'Éternel. Josué chapitre 24, verset 29. Donc au commencement, Josué devait être d'abord serviteur de Moïse avant de devenir serviteur de l'Éternel. Je l'ai pris au plan spirituel, mais je l'ai aussi pris également au plan humain. On ne peut pas avoir, on peut aspirer à être directeur général de société si on n'a pas appris à servir un directeur général. On commettrait d'abord une grande erreur parce qu'on ne sait pas comment est-ce qu'on maîtrise, n'est-ce pas, l'art de gérer les gens. On ne peut pas aspirer à être un grand pasteur si on n'a pas appris à servir un pasteur. On ne peut pas espérer être, je ne sais pas, à un niveau quelconque si on n'a pas appris à être auprès de quelqu'un qu'on sait de manière loyale. On peut dire à Dieu, élève-moi, distingue-moi. Mais Dieu dit, ok, pour que je t'élève, il faut que tu comprennes les principes. Un, il faut que tu aies une vision de là où tu veux aller. Deuxièmement, il faut que tu apprennes à être loyal. Et ce matin, on va continuer dans la même pensée sur la loyauté et on va aborder les autres points que nous n'avons pas pu aborder dimanche passé. Deuxième point que je veux noter ici, c'est que la loyauté permet d'avoir la croissance, l'expansion et permet un travail sérieux. La loyauté permet un travail, engendre un travail sérieux, engendre la croissance et engendre l'expansion. La loyauté. La loyauté engendre le sérieux, un travail sérieux. La loyauté engendre la croissance. La loyauté engendre l'expansion. Et je vais expliquer. Si un directeur d'une banque, propriétaire d'une grande banque, ne trouve pas des travailleurs loyaux, est-ce qu'il peut augmenter le chiffre d'affaires? Est-ce que son chiffre d'affaires peut augmenter? S'il ne trouve pas des travailleurs loyaux, il ne peut pas. Une personne qui est propriétaire d'un hôtel qui ne trouve pas des travailleurs loyaux, est-ce qu'il peut augmenter son chiffre d'affaires? Est-ce qu'il peut étendre son entreprise? Il ne peut pas. Puisqu'il n'a pas trouvé des gens loyaux. Parce que pour étendre une affaire, il faut trouver des gens loyaux, qui sont fidèles, honnêtes, qui exécutent les tâches selon la mission ou le mandat qu'on leur a confié. Donc vous voyez que quand quelqu'un a appris à être loyal, alors ça permet à l'œuvre de croître. Ça c'est l'œuvre spirituelle. Mais même une entreprise, croit avec qui? Croit avec des collaborateurs qui sont loyaux. Alors si demain, toi tu espères être un homme élevé, et que tu n'as pas autour de toi des hommes et des femmes loyaux, est-ce que ton entreprise peut croître? Jamais. Donc il est bien de comprendre que la loyauté touche à tous les aspects de la vie. C'est pourquoi je dis que la loyauté engendre un travail sérieux. Quelqu'un qui est loyal sera sérieux. Il ne peut pas espérer recevoir un salaire élevé s'il n'est pas loyal. Ce n'est même pas biblique de dire à quelqu'un, tu vas te bénir, tu vas t'élever, tu vas avoir la promotion, alors qu'en temps, on n'est pas loyal. On n'est pas sérieux. Donc la loyauté engendre un travail sérieux. La loyauté permet la croissance. Et la loyauté permet l'expansion. Quand on le ramène en domaine purement spirituel, pour qu'une église puisse croître, il faut que le pasteur ait des assistants ou des collaborateurs qui sont loyaux, travailleurs, qui sont capables de pouvoir œuvrer. On a ouvert par la grâce de Dieu des églises ici, un peu plus ou moins. Certaines églises se portent très bien, d'autres moins bien, à cause de ce qu'il n'y a pas forcément de salle. Mais si tu n'as pas des gens loyaux, tu ne peux pas connaître une croissance d'église. Donc la loyauté est importante dans tous les domaines de la vie. Si les ouvriers agricoles de votre plantation ne sont pas loyaux, est-ce que tu pourras avoir en fin d'année une bonne récolte agricole? Impossible. Quand tu vas te rendre dans le champ, tu vas te rendre compte qu'ils n'ont rien fait. Ils ont volé, ils ont tout volé. Ils ont vendu ça à quelqu'un qui était de passage. Donc on comprend que si on veut croître, on veut être la tête, on a besoin d'enseigner autour de nous la loyauté. Une dame m'a raconté que, c'est quelqu'un qui m'a raconté que une des servantes qui était à la maison a volé tous ses biens, elle est partie. Elle n'est pas loyale. Elle n'est pas loyale. Donc si on n'a pas autour de soi la loyauté, on est foutu. On peut être vidé, on peut s'appauvrir, on peut perdre la tête. Donc c'est un point qui est important de connaître et puis de comprendre. Je veux ajouter que la loyauté, deuxième point de ce que je suis en train d'enseigner maintenant, la loyauté engendre la loyauté. La loyauté engendre la loyauté. Si j'ai appris à être loyal, Dieu permettra qu'autour de moi se manifeste la loyauté et que des hommes et des femmes soient loyaux ou soient loyaux à mon égard. Nous avons ce passage-là dans 1 Samuel chapitre 26. 1 Samuel chapitre 26. Du verset 8 au verset 11. C'est l'histoire de David qui nous donne un exemple de loyauté. On le verra aussi David avec son ami Jonathan. Je lis. Abishai, qui était l'un des guerriers, l'un des généraux, l'un des combattants de David, dit à David, Dieu livre aujourd'hui ton ennemi entre tes mains. Laisse-moi le frapper de ma lance et le clouer en terre d'un seul coup, sans avoir à lui en donner un second. Mais David dit à Abishai, ne le fais pas périr. En effet, qui pourrait en toute innocence porter la main sur le Messie de l'Éternel? David dit, l'Éternel est vivant. C'est à l'Éternel seul de le frapper, soit que son jour vienne ou qu'il meure, soit qu'il descende au combat et qu'il y périsse. Amen. Je préfère m'arrêter là. C'est l'histoire de David avec qui? Avec Saül. C'est la deuxième fois que Dieu livre Saül entre les mains de David. La première fois, qu'est-ce que David a fait? Il a coupé le pan de sa robe. Ça, c'est au chapitre 24. Maintenant, au chapitre 26, Dieu avait envoyé un sommeil profond sur toute l'armée qui était autour de Saül. Et David a pris la lance qui appartenait à Saül et puis il est parti. Et plus tard, il a réveillé. Enfin, celui qui était avec David voulait faire quoi? Il voulait porter la main sur Saül. Dieu, David dit, non, ne le touche pas. Ne le touche pas. Il n'a pas touché. Et David s'est mis tout très loin dans un, enfin, sur une colline, enfin, sur une colline, parce qu'il y avait en Israël, un pays accidenté. Et il a commencé à interpeller Saül. D'abord, Abner, qui était l'un des proches de Saül, il a dit, mais tu n'as pas pu veiller sur le Messie, sur l'un de Dieu. Voici maintenant, je tiens l'épée, dans, enfin, la lance de David, de Saül, etc., etc. David n'a pas osé toucher à Saül. Parce qu'il était loyal. Quelqu'un peut dire, c'est mon ennemi. C'est fini, il faut que je le tue. David, non, je ne toucherai pas à loin de Dieu. Soit qu'il périsse de sa mort ou que Dieu le fasse périsse, mais je refuse de toucher à sa vie. Il a manifesté son déloyauté. Simplement parce que Saül était le roi. Ne touchez pas aux oins. Même quand Dieu les a disqualifiés, il faut continuer à les respecter. Laissez Dieu s'occuper d'eux. On peut le voir dans l'église, on peut le voir à l'extérieur. Plus tard, quand David lui-même va connaître, je m'excuse, on prend un gros mot, quand on va faire une connerie, on va faire quelque chose de grave, le thème, c'est ça le thème qu'il faut même, c'est le thème connerie qu'il faut même. Il va convoiter la femme de son serviteur, n'est-ce pas? Il va le faire tuer. Il va commettre un meurtre. Vous la connaissez, Bathsheba. Il va envoyer son mari Uri, il va monter un coup, tout ça, il va le faire boire l'alcool, il avait bu, il a refusé d'aller chez sa femme, tout ça, et David va aller très loin en le tuant. En principe, l'épée appelle l'épée. Mais comme David, écoutez très bien, n'a pas osé porter la main sur Saül, qui pourtant avait été déjà disqualifié aux yeux de Dieu. Comme il a refusé de le tuer une deuxième fois, Dieu, malgré tout, malgré l'adultère de... Si on veut compter les péchés de David, on a au moins 5 ou 6. La convoitise, l'adultère, et puis quoi encore? Hein? Avant le meurtre, il a fait quoi? Et la l'ivresse, parce que la Bible dit que tu ne feras pas voir ton prochain jusqu'à l'ivresse. On l'a fait boire jusqu'à ce qu'il se saoule. Quatrième péché. Après, il a monté un coup avant de le tuer. Il a fait un faux complot. Il a envoyé un courrier. Enfin, il a fait plein de. Une suite de péchés. Et lui, il est mort. Et Dieu dit à David, les peines ne se lèveront pas de ta maison. La même manière que tu l'as fait, moi, je vais exposer la nudité de ta femme. De femmes. C'est vrai que quand Absalom s'est levé contre David, qu'il a créé, il a suscité cette révolte, cette rébellion au sein du peuple d'Israël. En dépit de l'acte de péché, de meurtre, de tout ce que David a fait de mauvais par rapport contre lui, le Héthien, Dieu l'a préservé. Moi, je crois que si David avait tué Saül, son fils allait pouvoir avoir la victoire dans la rébellion et le tuer. La loyauté vous préserve. Si vous avez appris à être loyal à l'égard d'un supérieur, Dieu vous gardera, vous préservera de toute forme d'acte qui peut être mauvaise. On le voit aussi, mais le temps nous manque d'en parler. On le voit aussi entre David et Jonathan. Dans 1 Samuel chapitre 18, verset 5. Non, dans 1 Samuel chapitre 20. Voyons quand même voir ça. 1 Samuel chapitre 20. Et verset 41. 1 Samuel chapitre 20, verset 41. Après le départ du garçon, David se leva du côté du nord, puis se jeta le visage contre la terre et se prosterna trois fois. Les deux amis s'embrassèrent. Les deux amis pleuraient, David surtout. Et Jonathan dit, va en paix. Maintenant, nous avons tous les deux fait un serment au nom de l'Éternel en disant, que l'Éternel soit entre moi et toi, entre ma descendance et ta descendance pour toujours. C'est un serment, une alliance. Il dit, que l'Éternel soit le témoin entre toi et moi, entre ma descendance et ta descendance. Voyez aussi, c'est un signe de loyauté. Ils ont passé un lien, c'est une alliance entre les deux. Et cette alliance était tellement forte. Bien sûr, ce passage-là, on peut l'utiliser pour prêcher sur l'alliance, la puissance de l'alliance. Mais je le prends aussi dans le sens de la loyauté. David va rester loyal à l'égard de Jonathan. Parce que la loyauté, ce n'est pas seulement celui qui est ton supérieur. On n'est pas seulement loyal à l'égard du supérieur hiérarchique. On est loyal à l'égard de son collaborateur. Loyal même aussi envers ceux qui sont sous notre autorité. Et je l'ai dit dimanche passé. David va rester dans le lien de loyauté. Quand Jonathan va mourir, périr plus tard, quand il va être tué, qu'est-ce que David va faire? Voyez avec moi 2 Samuel chapitre 9. 2 Samuel chapitre 9. Voyez 2 Samuel chapitre 9. Verset 1. David dit, reste-t-il encore quelqu'un de la famille de Saül pour que j'use de bienveillance envers lui à cause de Jonathan. Usez de bienveillance à la descendance de Saül à cause de qui? À cause de Jonathan. Je saute. Verset 4. Le roi lui dit, où est-il? Shiba répondit au roi, il est dans la maison de Makir, fille de Amiel, à Lodébar. Le roi l'envoya chercher dans la maison de Makir, fils de Lodébar. Et Mephibosheth, fils de Jonathan, fils de Saül, vint auprès de David, tomba face contre terre et se prosterna. David dit à Mephibosheth, il répond, voici ton serviteur. David lui dit, sois sans crainte. Pour sûr, je vais user de bienveillance envers toi à cause de ton père Jonathan. Je te rendrai toutes les terres de ton père Saül et tu ne mangeras toujours à ma table. Amen. Il y a eu une alliance. Et cette alliance était basée sur la loyauté. Et Jonathan dit, Dieu est témoin entre toi et moi, entre ma descendance et ta descendance, Dieu sera témoin. Quand Saül est mort et quand Jonathan est mort, David a usé de la loyauté envers qui? Envers Mephibosheth qui était percuté des pieds, parce qu'il était le fils de Jonathan. Il a appelé pour qu'il ait dit, je vais te rendre toutes les terres de ton père, l'héritage qui te revenait, et ensuite, tu mangeras tous les jours à ma table. Parce que David a été loyal à l'égard de Saül, loyal à l'égard de Jonathan. Si on a appris à être loyal ou être loyaux, des hommes et des femmes nous serons loyaux et loyaux à l'égard de nos descendants. Il faut dire amen avec moi. La loyauté est capitale. On ne peut pas espérer être la tête si on n'a pas appris à être loyal. On ne peut pas espérer être la tête si on n'a pas appris à être loyal. Apprenons à être loyal en tout. En tout, si on te confie une tâche, exécute-la de manière correcte. De manière loyale, ne dis pas, oui, mais ce monsieur écrit sur moi. Ce n'est pas grave. Exécute ta tâche. Fais-la avec tout ton cœur. Laisse la grâce de Dieu couler en toi. Autant que convenable, tu seras élevé. Il est bien de savoir que Dieu ne bénit pas à partir de zéro. Parce que quand Dieu vient, il bénit toujours à partir de quelque chose, rappelez-vous, toujours quelque chose. Qu'as-tu dans ta maison? Qu'as-tu dans ta main? Un bâton. Le petit garçon, il avait quelques pains et puis quelques poissons. Le Seigneur dit, ça suffit. Prenez cela, multipliez-la, cassez et puis donnez aux autres. Donc, en fait, la loyauté entraîne sur notre chemin aussi la loyauté. Troisième aspect que j'aborde ce matin. La loyauté nous conduit à avoir un seul maître. Quand on est loyal, on a un seul maître. La loyauté nous conduit à avoir un seul maître. Matthieu chapitre 6, le verset 22. Ça fait partie du discours, l'enseignement sur la montagne, les béatitudes. Matthieu chapitre 6, verset 24. Matthieu 6, 24, je lis. Nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Quand une personne est loyale, elle ne peut avoir qu'un seul maître. Un seul maître. Bien sûr, on peut avoir des sous-maîtres ou des sous-sous-maîtres. Mais on doit avoir un seul maître quand on est loyal. On ne peut pas servir quelqu'un dans une grosse société. Vous êtes directeur et vous avez votre directeur général. C'est lui qui est votre patron. Vous ne pouvez pas avoir autour de lui, à côté de lui, quelqu'un d'autre qui est comme votre directeur général, qui vous donne des instructions. Qu'est-ce qui va se passer? Le vrai patron va faire quoi? Il va te mettre, il va te dire, mais quand je te parle, tu ne m'entends pas. Regarde comment ça se passe dans la société. Le patron, le DG te donne des instructions. Et quand tu as fini, toi qui es directeur, tu vas voir l'autre directeur, le DG adjoint, tout demande, mais le DG a parlé, hein, toi, mais qu'est-ce que tu penses? Et puis il te dit quelque chose de contraire. Est-ce que le DG va apprécier ça? Non, on ne peut pas voir deux maîtres. On ne peut pas être élevé si on a deux maîtres. Et ce passage-là, on doit le retrouver dans beaucoup de domaines. Et je vais aller dans le domaine spirituel parce qu'on est dans le domaine spirituel. Je glisse un peu de toutes parts pour comprendre que l'enseignement que je donne n'est pas seulement à l'église, prier, mais que ça touche notre vie quotidienne dans tous les domaines. Au niveau de l'église, on ne peut pas voir deux pasteurs, enfin, on ne peut pas voir deux autorités spirituelles. Allô? Allô? On ne peut pas voir deux autorités spirituelles. Il y a des personnes qui ont leur pasteur et puis qui ont leur père spirituel et qui ont leur guide. Non, ça ne marche pas. Bien sûr, je ne suis pas en train de dire qu'on ne peut pas avoir des conseillers. Dans la vie naturelle, regardez très bien. On a un père, et puis on a des oncles, on a des cousins et des cousines, des tantes. Mais la tante n'est pas la maman. Le papa n'est pas l'oncle, l'oncle n'est pas le papa. Bien sûr, on peut avoir du respect pour son oncle qui t'a fait du bien, mais tu portes le nom de ton papa. Tu as, son sang est en toi. Bien sûr, avec l'oncle aussi, par ramification. Mais à titre principal, c'est d'abord lui. Bien sûr, ça ne signifie pas que tu ne dois pas respecter l'oncle, le cousin. Ça, c'est naturel. Si tu as eu une très bonne nouvelle, qui va être le premier à être informé? Le cousin? L'oncle? Non, c'est d'abord le papa et la maman. Ou bien, c'est pas ça. D'abord lui. Ou d'abord eux. Et ensuite, maintenant, tu appelles l'oncle, tout cela. Ça, c'est dans le naturel. Donc, quand je dis qu'on ne peut pas voir deux pasteurs ou deux autorités, je suis en train de dire qu'on ne peut pas à côté, bien sûr, avoir des personnes avec qui on prie. Mais en termes de couverture spirituelle, je pèse mes mots, en termes de couverture spirituelle, on ne peut pas en avoir deux. On ne peut pas avoir deux pères spirituels. On a un seul père spirituel et puis on peut avoir des personnes qui nous aident, qui nous soutiennent. Moi, mon père spirituel dans le ministère, c'est passé 40 000, il n'y en a pas deux. Quand Dieu m'a fait la grâce d'être admis à ce que j'ai, ou là où j'étais admis, je suis allé au Burkina Faso pour faire une action de grâce. C'est juste un exemple que je donne. Je ne suis pas allé chez quelqu'un d'autre ici. Parce que ce n'est pas lui que le ministère a commencé. Et tant qu'il est vivant, je vais l'honorer ainsi. Tout simplement, il ne m'appelle pas tous les jours. Longtemps, il m'a appelé d'ailleurs. Vous voyez qu'il en est ainsi dans la vie. Il est bien d'avoir cette autorité sur vous. Parce que ça compte énormément. C'est pas le Seigneur qui dit, on ne peut pas avoir deux maîtres à la fois. Et la couverture spirituelle compte énormément. Pourquoi? Parce que la Bible déclare que ce sont les gardiens de vos âmes. Et dans Jean chapitre 10, on parle du berger qui conduit ses troupeaux, bien entendu. Donc, je ne suis pas en train de dire qu'on ne peut pas visiter une église où tu es invité. Non, je ne suis pas en train de dire ça. Je dis qu'à un moment donné, on dit, je veux que cette personne-là soit ma couverture spirituelle. Je veux qu'elle soit mon autorité spirituelle. Mais attention. Au départ, je l'ai dit, je vais le préciser. Si celui qui est le pasteur ou ton autorité spirituelle déconne, il fait des choses qui sont mauvaises, qu'il est lui-même déloyal, que lui-même, il se disqualifie, tu ne peux pas te soumettre à une autorité pareille parce qu'en fait, l'onction donne l'onction. Il peut te communiquer des mauvaises choses. Donc, tu as tout à fait raison de dire, cette personne-là, à cause de ce qu'elle est déloyale à l'égard de Dieu, qu'elle-même n'est pas dans la voie du Seigneur, avec beaucoup de politesse, beaucoup d'intelligence, je quitte sous son autorité et puis je cherche quelqu'un avec qui je peux travailler ou qui peut être mon autorité spirituelle. Est-ce que ce que je dis est clair? Parce qu'il ne s'agit pas de dire comme c'est mon autorité spirituelle, alors il se permet de tout faire, tout ce qu'il veut. Même s'il enseigne faux, même s'il te manipule, même s'il te presse, même s'il te maudit, tu es toujours assis. Non, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Si bien sûr la personne n'est plus digne de Dieu à cause de sa vie, on ne peut pas demeurer sous son autorité. Salomon a été appelé de Dieu. Mais Salomon, à un moment donné, a quitté l'autorité de Dieu et s'est allié à qui? Au Dieu de ses femmes. Et Dieu l'a dit, le royaume sous ton règne, enfin, en tout cas, si tu es sûr, je te mets d'écouter, le royaume sera divisé. Mais ça ne sera pas divisé ton vivant à cause de mon serviteur David. Quand Samuel est mort, quand Salomon est mort, qu'est-ce qui s'est passé? Le royaume a été divisé en deux. 10 tribus pour Jéroboam et l'autre. Et puis, seulement 2 tribus pour la maison de David. À cause de l'infidélité et à cause de la déloyauté de Salomon. Donc, pour revenir sur ce que je suis en train d'expliquer, quand on a une autorité spirituelle, bien entendu, il faut l'observer. Si elle mérite, à cause de sa vie, il n'y a pas de problème. Mais il ne faut pas en avoir 3 ou 4 qui vont dire des choses contraires. Quelqu'un vient, il parle pour toi, il donne des conseils. Et tu vas voir l'autre encore pour dire, donne-moi d'autres conseils. Et les conseils peuvent être contradictoires parce qu'on n'a pas forcément la même vision. Par exemple, il y en a qui disent que quand le pasteur ne peut plus travailler, pour moi, un pasteur peut travailler, il doit travailler. Donc, si quelqu'un veut être avec moi et que je lui dis, moi, franchement, à l'église, je veux que tous les pasteurs qui sont avec moi puissent eux-mêmes avoir à manger et ne pas vivre des dîmes et des offrandes. On sera ensemble. Mais s'il estime que lui, moi, je vais vivre vraiment à 100% de l'évangile, je vois les choses de la vie, je sais comment ça se passe. Il n'y a pas toujours offrande et dîme à l'église. C'est souvent difficile. Souvent, les fidèles eux-mêmes ont des problèmes. Donc, si tu ne veux pas avoir une activité à côté et que tu dépends entièrement de l'église, ça va être très difficile pour toi. C'est juste un conseil que je donne. Il y a des personnes qui ont des opinions contraires. Ils vont te dire, Dieu va pouvoir. Oh, je sais que Dieu pourvoit au travers des hommes. Mais aussi, je peux aussi manger et puis il peut faire comme Paul aussi. Avoir mon petit pain, mon petit achéké et je vis tranquille. Si on me dit que l'église me bénit, je prends. Si on ne m'a pas béni, qu'est-ce que je fais? Je mange quand même. Pour ne pas quand même m'en donner à cause des pressions financières, je puisse essorer l'église, tu vois, casser les gens, toujours passer sur l'argent. L'argent est bon, hein, mais toujours passer sur l'argent. Oui, dis-moi, offrande. Oui, il faut donner. Franchement, à un moment donné, on en a marre. On dit, écoutez, il n'y a pas que ça dans la Bible, ou bien. Donc, ça, je ne donne qu'un exemple pour montrer que il est difficile d'avoir plusieurs pères spirituels. Il y a un père spirituel principal. Et puis, on peut avoir quelques conseillers qui nous aident parce que le père spirituel peut ne pas être toujours disponible. Mais au dernier ressort, à lui, il faut demander ce qu'il en pense. Gloire à Dieu. La loyauté demande cela aussi. L'attachement à l'église également. Bien sûr, si l'église n'est plus dans la vision de Dieu, moi, je suis de ceux qui pensent que si une église n'est plus dans la vision de Dieu, et ça, je le dis ici avec beaucoup d'honnêteté, si quelqu'un n'est plus à l'aise ici parce que ce qu'on dit n'est pas bien, tout ça, franchement, on ne peut pas mettre quelqu'un en prison. Vous comprenez ce que je veux dire, non? Personne n'est propriétaire de votre âme. Ne vous sentez pas obligé de quelque part parce que justement, si vous partez, on va vous maudire. Ça arrive des fois où quelqu'un dit, si tu pars d'ici, tu es maudit. Mais n'oubliez pas que la Bible déclare que la malédiction sans cause n'aboutit à rien. Donc, il est bien que dans la loyauté, tous les aspects soient traités pour ne pas que je donne l'impression qu'on va vous rendre prisonnier d'un lieu ou d'un pasteur. Est-ce que ce que je dis est clair? Tant que la personne est dans la voie de Dieu, tant qu'elle est loyale à l'égard de Dieu, soyez loyale à son égard. Tant que l'église est loyale, qu'elle travaille dans la vision de Dieu, il n'y a pas de problème. Mais si évidemment, on n'est plus loyal et qu'on fait ce qu'on veut, on quitte le champ de Dieu, Dieu lui-même nous disqualifie et par conséquent, sur la terre, on va être disqualifié. Troisième chose que je vais aborder, toujours dans la loyauté, la loyauté entraîne une bonne attitude. Quand quelqu'un est loyal, il apprend à avoir une bonne attitude. La loyauté nous permet d'avoir une bonne attitude au service, au marché, à la maison, pour ceux qui sont servantes. Avoir une bonne attitude. Et cette bonne attitude, nous la trouvons dans la Bible, dans Ézéchiel chapitre 34, verset 18. Ézéchiel 34, verset 18. Il y a juste 5 minutes pour finir. Ézéchiel 34, verset 18. Voilà, si on l'a trouver le passage, on va le lire. Ça paraît un peu, c'est un passage un peu imagé, avec figure de style, mais on peut comprendre cela. Verset 18. Ézéchiel 34, voilà, c'est ça. J'ai failli me perdre un peu. Ouais, verset 18, c'est où ça? Voilà, c'est ça. Est-ce trop peu pour vous de paître dans le bon troupeau pour que vous fouliez de vos pieds le reste de votre pâturage, de boire une eau limpide pour que vous troubliez le reste avec vos pieds? Mes brebis doivent paître ce que vos pieds ont foulé et boire ce que vos pieds ont troublé. Amen. C'est dit, c'est un peu imagé. On parle d'eau limpide et on parle du reste. C'est un peu l'image des personnes qui, à l'église, boivent à l'eau, c'est-à-dire à l'église, la parole de Dieu, et qui, en même temps, foulent le reste avec le pied. On peut imaginer, par exemple, une brebis qui est en train de boire de l'eau, et puis quand elle finit, qu'est-ce qu'elle fait? Elle met ses pieds dans l'eau pour que l'eau soit troublée. C'est à peu près cette image qui est décrite ici. En fait, au plan spirituel, c'est un peu comme l'image, et là, je suis sur la loyauté, qui nous permet d'avoir la bonne attitude. On ne doit pas cracher là où on s'est assis. On dit même chez nous, de manière générale, que quand tu craches en haut, ça tombe sur qui? Ça tombe sur toi. Tu ne peux pas cracher en haut et espérer que ça s'arrête en haut. On ne peut pas être nourri de la parole de Dieu, quelque part, et puis en même temps, critiquer le pasteur, l'accuser, le dénoncer ou le calomnier. On ne peut pas être dans une entreprise, bénéficier, bien sûr, d'un contrat avec une grosse boîte et passer tout son temps à dénigrer le directeur général, l'insulter. On ne peut pas être servante chez quelqu'un. Puisqu'à la maison, généralement, on dit la maître de la maison, on ne dit pas le maître des maisons. Donc, à la maison, en réalité, qui est le patron? C'est la femme, c'est pas l'homme. Nous, on est là, on mange. Et puis, on regarde la télévision. C'est tout. C'est pas bon, mais c'est comme ça. La maître de la maison, c'est la femme. Donc, en réalité, pour la gestion des choses de la maison, pour les servantes, c'est pas monsieur, c'est madame en principe. Même pour payer la servante, c'est pas l'homme qui doit payer la servante, c'est la femme qui doit payer la servante. Bon, c'est pas seulement parole d'évangile, hein. C'est juste pour rire un peu. Si la jeune dame qui travaille à la maison ne respecte pas sa patronne ou fait concurrence avec elle, est-ce qu'elle peut être élevée? Non. Si elle passe son temps à la critiquer, ma patronne même, elle parle trop. Elle pourrait parler comme ça même. Toujours en train. Vous voyez, ça n'est propre, ça ne passe pas du tout. Ça, c'est vrai au niveau de ce qui est local, d'un foyer. Mais remonter à un niveau plus élevé, on ne peut pas boire de l'eau limpide d'une entreprise, donc avoir un salaire de l'entreprise, avoir été recruté dans une période où il y a beaucoup de chômage, et passer son temps à critiquer le patron, à le maudire, à l'insulter, à dire des bêtises sur la personne, même si elle ne t'entend pas. Au plan spirituel, je dis, c'est très mauvais, tu ne peux pas être élevé. Est-ce que ce que dit est clair? Mais ne vous amusez jamais avec ce genre de choses-là. C'est très, très sérieux. Il dit bien, même si le patron n'est pas un chrétien, même si c'est tout ce que vous voulez, il est méchant, au plan spirituel, tant que vous êtes sous son autorité, faites votre travail et ayez à son égard la bonne attitude. Vous ne pouvez pas boire de l'eau limpide et puis fouler le reste avec vos pieds. C'est ce que dit le passage Ézéchiel, chapitre 37, verset 18. Sauf si vous êtes dans l'église, on ne peut pas recevoir la nourriture spirituelle d'un pasteur et passer son temps à le dénigrer, à le critiquer. Si tu as des choses à le dire, avec beaucoup de fair play, tu le dis, et toi-même ça t'aide. La couverture spirituelle est ainsi extrêmement importante. Ça s'appelle les mécontentements, les suspicions et puis tout cela. Troisième point, le cinquième point rapidement pour aller de l'avant, c'est que la loyauté rejette les divisions. Quand on est loyal, on rejette les divisions. On a ça dans 1 Corinthiens chapitre 1 verset 11. 1 Corinthiens 1, 11. La loyauté rejette la division, les partis pris. Il écrit ici, moi je suis de Paul. Moi, aux autres, je suis d'Apollos. Donc, dans l'église, on a des préférences. On dit, je préfère telle personne, je préfère telle autre. Ou dans telle entreprise, on préfère ceci, on préfère cela. On doit absolument éviter la division. Une église, c'est avant tout un corps. Et un corps ne peut pas être divisé et un corps ne doit jamais être divisé. Même l'organe qui paraît le moins utile. Ah, je ne sais pas si dans le corps humain, il y a quelque chose qui n'est pas utile. Si on vous arrache votre ongle, ça vous fait mal, hein. L'ongle, apparemment, ça en a qui mangent leur ongle. Mais quand on arrache l'ongle à partir de la chair, ça fait très mal. Bon, l'ongle, Dieu a mis ça, Dieu a mis l'ongle là parce que Dieu savait qu'on allait travailler la terre. Et puis on allait crier. Donc l'ongle a son importance. Les yeux, même là. Moi qui t'en sais beaucoup là. S'il n'y avait pas ça, mes yeux étaient toujours remplis de sueur. Donc Dieu a fait ça. Bon, il y a des femmes qui rasent ça totalement. Elles sont très fortes. C'est juste une parenthèse. C'est pas contre ça. Bon. Je veux dire que tout ce qu'on a dans notre corps est utile. Donc la loyauté entraîne de évite les divisions. On préfère celui-ci, on préfère celui-ci. On n'est pas dans cette logique. On forme un corps. Et c'est vrai à l'intérieur du corps même. Pas seulement à l'égard du pasteur ou à l'égard des responsables, mais les uns à l'égard des autres. Parce que quand l'apôtre Paul dit, moi je suis de Paul, l'autre est d'Apollos, ça veut dire qu'à l'intérieur de l'église de Corinthe, il y a des divisions internes. Que les gens ne sont plus sur la même logique. Quand on lit la Bible, on se rend compte que l'apôtre Paul n'était pas un grand orateur. Mais c'était un homme que Dieu utilisait beaucoup. Peut-être qu'Apollos était un puissant orateur qui faisait trembler les gens. Il dit, non, moi je préfère Apollos. Quand lui prend la parole là, c'est grave. Non. Si on est loyal, on doit être loyal à l'égard des uns des autres, mais loyal à l'égard, enfin, de manière réciproque, on ne doit pas avoir dans une église la division. C'est pourquoi c'est à Corinthe qu'il a écrit la lettre concernant la Sainte-Sainte pour dire que les gens qui prennent la Sainte-Sainte, qui mangent déjà et puis ils viennent prendre la Sainte-Sainte, ça fait un désordre. Il a dit que si quelqu'un prend la Sainte de manière indigne, cette personne va en payer le prix. Je prie de tout mon cœur que si nous aspirons à être élevés, nous devons éviter toute forme de division interne. Si le corps est divisé, on ne peut rien faire. Et Dieu lui-même. Ça peut vous étonner. Dans la Genèse. Quand les hommes sont mis ensemble pour dominer et bâtir la tour de Babel, qu'est-ce que Dieu a dit? Dieu dit quoi? Descendons. Parce que les hommes sont en train de bâtir, ils vont devenir forts. Donc Dieu se rend compte que l'unité, l'union fait la force. Donc si au sein d'une église, les gens ne sont pas unis, dans leur pensée, dans leur corps, et qu'on se critique les uns les autres, qu'on ne se parle pas les uns les autres. Comment vous voulez que l'église soit élevée? Comment vous voulez que vous-même, vos prières soient exaucées? Tout au long, on a chanté. Tu es... C'est moi, je chante ça, ma fille. Car tu exauces ma prière. On a chanté ça. Il y a des conditions pour être exaucées. Si on n'est pas unis, on est foutus. On ne peut pas espérer recevoir un exaucement. On doit faire un effort sur soi-même pour vaincre cela. La loyauté entraîne le rejet de tout ce qui est désunion, tout ce qui est préférence réciproque. Et enfin, la loyauté, deuxième point qui reste, la loyauté rejette l'orgueil, les signes de l'orgueil, les répliques, les suffisances, se moquer des gens, se moquer des plus petits. Se moquer de ses collègues, se moquer de son supérieur hiérarchique, se moquer de son pasteur, se moquer de son petit, se moquer de son collaborateur. Ou penser qu'on est au même niveau que le leader. Ça arrive, dit M. le directeur général. Moi, ce qu'ils vont, ils peuvent faire, lui veut montrer qu'il est qui ici, à bien là. Il a deux cesses, moi, il a deux cesses. Il a master, il est master. Il a quoi encore? Il a BTS, il est BTS. Il veut prouver qu'il est qui? Non, la loyauté rejette l'or. L'orgueil. Tout simplement, rejette l'orgueil. Il est là pour l'instant, ton autorité, tu te soumets à lui, point ou à elle, point. Et des fois, quand quelqu'un est loyal ou quand quelqu'un n'est pas loyal, elle pense être indispensable. Quand on est loyal, on ne pense jamais qu'on est indispensable. La terre est remplie, enfin, 1,5 mètre en dessous du sol, remplie des hommes qui se croyaient indispensable. N'oubliez pas que l'humanité est composée de plus de morts que de vivants. Ceux qui sont morts sont plus nombreux que ceux qui sont vivants. On est 7 milliards de vivants. Mais ceux qui sont morts maintenant là, jusqu'à la création depuis Adam, ils sont plus nombreux que nous. En clair, quand une personne est loyale, elle ne se croit pas indispensable. Elle croit qu'elle joue un rôle, elle fait sa part, point et un trait. Ce qu'on lui confie comme tâche, il exécute ou elle exécute. Mais dès qu'on croit qu'on est indispensable, on tombe dans la déloyauté. Parce que pourquoi on est indispensable, qu'est-ce qu'on va faire? On va dire, mais écoutez, moi, s'il ne vient pas, ça ne fonctionne pas. Le DG vit de moi. Très bien, pour un temps, il vit de toi. Il te supporte. Mais à un moment donné, tu vas créer une situation, on va te remplacer par quelqu'un d'autre. Et tu vas te rendre compte que la terre continue de tourner. Le soleil se lève à l'est et se couche à l'ouest. la vie va continuer à tourner. Des gens vont continuer de mentir, de voler. Le monde fonctionne sans toi et sans moi. Donc, dans la loyauté, il y a le fait qu'on considère qu'on est utile, mais en même temps, on considère qu'on n'est pas indispensable, que le monde peut vivre sans nous. D'ailleurs, dans 100 ans, on sera tous morts. Tous. Et la terre va continuer de vivre si Jésus ne revient pas. Quatrième, cinquième chose, pour conclure complètement. Là, je m'arrête là parce qu'il est vraiment l'heure. La loyauté rejette la familiarité. Septièmement, non, c'est ça? Ou sixième, je ne sais plus. La loyauté rejette la familiarité. Quand on est trop familier, on finit par être déloyal. Et souvent, les patrons eux-mêmes ne créent trop de familiarité. À un moment donné, on doit savoir la différence entre le patron et puis le collaborateur. Le passage se trouve dans Matthieu, on ne peut pas le lire. Dans Acte plutôt, dans Marc plutôt. Le Seigneur est arrivé un jour où, dans sa ville. Et il a dit qu'il n'a pu faire là que quelques miracles à cause de leur incrédulité parce qu'ils se sont dit, voici le fils de Marie. Ils l'ont vu grandir. On dit quoi? Lui, il est le fils de Dieu? Non, ce n'est pas possible. Vous voyez, à cause de la familiarité, ils n'ont pas reçu leur guérison et leur délivrance. Je dis bien, on doit avoir des rapports cordiaux avec nos patrons, avec les patronnes, avec les autorités, que ce soit politique ou administrative ou de la société ou spirituelle. On ne doit pas tomber dans la familiarité. On peut l'appeler par leur nom, par leur prénom. Yo, yo! Ah, tape sur sa poitrine. Quand il parle, oh, toi, il faut que tu décolles là. Il n'y a pas son passé comme ça. Hein. Il donne des autres. Ça arrive souvent dans les pays développés. Le conseil de pasteur est tellement puissant, le conseil de gestion est tellement puissant qu'ils mettent le passé dehors. Je suis bien sûr, c'est vrai. On dit, lui, à toi, tu quittes, tu n'es plus pasteur ici. Il y en a des gens qui sont tellement puissants que ils sont prêts à dire au pasteur qu'ils se taisent. Quand les gens parlent là, on a cité. Bon, je suis en train d'exagérer. Je suis en train d'exagérer. Sans doute. Mais je veux dire, si vous êtes dans une entreprise, même si c'est un frère en Christ qui est le patron de l'entreprise, un frère en Christ, vous êtes en train de bénir ensemble. Tu dois reconnaître que quand tu quittes l'église et que tu es au travail, il n'est plus ton frère en Christ, il est ton patron. Je le dis parce que malheureusement, dans le milieu chrétien, il y a eu tellement de déceptions. Le gars, il vient au travail à n'importe quelle heure. Parce qu'il est convaincu que le directeur qui est un chrétien de la même église ne va jamais lui faire de remontrance. Non. Si c'est moi là, il faut le renvoyer. Mais il faut le mettre dehors. C'est pourquoi beaucoup de chrétiens n'ont pas envie d'employer des chrétiens dans la société. Parce que quand ils viennent, ils sont paresseux, ils sont négligents. Ils sont convaincus que le frère en Christ ne va jamais, jamais le suspendre. Est-ce que ce frère-là qui a un comportement peut être élevé? Dites-moi. Jamais. Jamais. Donc comprenez que la trop grande familiarité ne permet pas la loyauté. C'est aussi vrai dans les rapports entre les fidèles et le pasteur. C'est aussi vrai dans les rapports entre les membres d'une cellule de prière et leurs responsables. En toute chose, on doit avoir des rapports de réciprocité, mais ne pas tomber dans trop de familiarité au point qu'à un moment donné, on perd l'autorité ou on perd l'honneur. C'est vrai en tout. Que Dieu nous bénisse ce matin. On va tous se tenir debout, on va prier. On va acclamer plus fort que cela. On va prier par rapport à ça. On va demander de nous aider à ne pas tomber dans la familiarité, dans la déloyauté. On va c'est cela. Il y a beaucoup de points que j'ai soulignés. La loyauté ne s'accommode pas avec la division, les préférences, ça ne marche pas. La loyauté ne s'accommode pas avec l'orgueil. La loyauté ne s'accommode pas avec l'esprit de penser qu'on est vraiment indispensable. Non, ça ne marche pas avec cela. Que Dieu nous donne aussi, n'est-ce pas, à nous, ou à vous qui êtes des directeurs, à ne pas aussi vous dévaloriser en ayant des comportements trop familiers aussi. Ne dites pas comme c'est un frère en Christ, il ne faut pas que je le gronde, il ne faut pas que je lui parle avec beaucoup de sévérité. Non, 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 c'est un frère en Christ, mais s'il fait des choses qui ne sont pas correctes, il faut taper sur lui. Il faut taper sur lui. Et il ne faut même pas, s'il mérite d'être renvoyé, il faut le renvoyer. Ça, c'est moi qui le dis, ça m'engage. J'ai dit, mais si c'est un frère en Christ, il déconne, il ne fait pas son boulot, il faut le vider. Dis-moi, écoutez, il faut avoir le passé gardien Abraham, mais je te renvoie aujourd'hui. Tu lui paies ses droits aussi. Il faut lui payer ses droits aussi. Hein. Tu paies ses droits. Dis, bon, côté, congé. On ne travaille plus ensemble. Fini. Parce que si on dépasse à l'église, on va tout mélanger. On va dire, ah, c'est mon frère en Christ. Au travail, tu ne l'appelles pas par son prénom. Hein. Tu l'appelles monsieur. Il dit, je suis très sérieux. Je l'appelle monsieur. Tu te l'appelles monsieur. Si tu l'appelles. Faut le dire quoi? Juste ton frère qui? Mon frère Robert. C'est pas frère Robert ici. Hein. C'est monsieur. Monsieur Bangbe. Monsieur Bangbe. Oui, patron. Quand tu appelles, tu dis patron. Mais ben, pourquoi on n'aime pas ça même? C'est ça la loyauté. Quand c'est à l'église, tu dis mon frère Gaspard. Il n'y a pas de problème. Mais quand c'est au travail, c'est mon frère Bangbe. Monsieur Bangbe. C'est comme ça. C'est les rapports, même ça aussi avec le pasteur, hein, avec d'autres personnes, que Dieu nous bénisse. Prions tous ensemble, le Seigneur, que après la Sainte-Seine, j'ai évoqué beaucoup de choses. Le temps manque, mais bon, il y a beaucoup de choses. Les divisions, les préférences, l'orgueil, le fait qu'on se considère comme indispensable, tout ça. Prions Dieu que nous aide. La loyauté aussi dans le service de Dieu. La loyauté aussi dans le service des dîmes et offrandes, parce qu'on a besoin de ça pour avoir un terrain, afin que je puisse prêcher à l'aise sans me limiter pendant le temps. Prions pour tout cela, que Dieu nous aide par son Esprit Saint. Amen. Mais la cause est où, le frère? Ils ont fini? Vous avez fini? Vous venez alors? Oh Dieu, merci parce que tu nous aides. En prenant ce pain, ce vin, Seigneur, enseigne-nous la loyauté. Que Dieu nous enseigne la loyauté, qu'on soit des hommes et des femmes loyaux. Loyaux en toutes choses, loyaux en toutes choses, en toutes choses. Nous sommes appelés à faire notre part. Faisons notre part et laissons à Dieu lui-même de nous propulser, de nous élever. Même si on a fait un patron méchant, dur, ce n'est pas notre problème. Faisons notre part et laissons à Dieu l'occasion de nous élever. Père, merci pour cela. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Hosanna. Que Dieu nous sauve. Qu'il nous sauve. Hosanna. On se apprête après la Sainte-Seine. On se met dans les rangs. On prend la Sainte-Seine.